Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chacun de nos invités chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, la France déconfinée est-elle une cocotte minute sociale? Entre les manifestations des Gilets jaunes et le mouvement contre la réforme des retraites, la France a connu un an et demi d'intenses mobilisations sociales qui se sont brusquement arrêtées avec le confinement. Mais 10 jours après la fin de celui-ci, et malgré l'état d'urgence sanitaire qui interdit les grandes manifestations, les luttes sociales semblent prêtes à redémarrer. Dans le secteur public, à l'hôpital, qui a recommencé à protester dès la semaine dernière, dans le privé, chez les employés de super ou d'hypermarché par exemple, déçus que les enseignes ne tiennent pas toutes leurs promesses de primes exceptionnelles. Une situation résumée crûment par un membre de cabinet ministériel, c'était dans le Parisien d'hier. C'est le quotidien et son lot d'emmerdes qui reprennent, disait-il, crûment. Donc nous serons avec 3 invités aujourd'hui. Olivier Klein, il est maire socialiste, PS, de Clichy-sous-Bois depuis 2011. Il est président de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il est vice-président délégué à l'habitat et à la mixité de la métropole du Grand Paris. Agnès Hartemann sera également avec nous. Elle est chef de service de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière et elle est membre du collectif Interhôpitaux. Et avec nous également Jean-Dominique Simonpoli. Il est directeur général de l'association Dialogue, lieu d'échange entre syndicalistes, chefs d'entreprise, spécialistes des questions sociales. Il est co-auteur chez Odile Jacob de Dialogue social en France entre blocage et Big Bang. C'était en 2018. Bonsoir Olivier Klein, merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous Agnès Hartemann.
Bonsoir.
Et merci d'être là Jean-Dominique Simonpoli. Vous êtes un fin observateur du climat social en France depuis bien longtemps. Vous avez fait de très nombreuses missions donc, et vous avez créé cette association Dialogue pour justement permettre le dialogue social entre différentes parties de ces milieux que sont les milieux patronaux, les milieux syndicalistes ou encore d'autres milieux qui veulent dialoguer autour de ces questions-là. Est-ce que vous sentez quelque chose qui est en train de monter, comme on le craint, certains le craignent et d'autres l'espèrent, à la sortie de ce confinement?
Bonsoir, tout d'abord bonsoir. Écoutez, ce qu'on voit monter, c'est un peu une exaspération qui est liée beaucoup chez les personnels de santé, hein, par les promesses qui leur ont été faites il y a quelques mois, et aujourd'hui le discours du président de la République qui remet en avant une série de sujets qui vont faire l'objet au moins d'un Ségur de la santé dans les jours qui viennent. Donc il y a des attentes qui sont réelles chez les personnels de santé. Il y a des attentes aussi chez tous ceux qu'on a appelés les salariés de première ligne, hein, qui étaient présents, qui ont réussi à faire vivre notre pays au moment où le confinement a eu lieu. Là aussi, il y a des attentes fortes en matière de santé, en matière de sécurité, en matière de reconnaissance. Je pense que la vraie question, finalement, à laquelle on va être confronté dans les semaines qui viennent, c'est bien celle de la reconnaissance. Alors qu'elle se manifeste de façon financière, ce qui est tout à fait louable et nécessaire pour toute une série de catégories de salariés qui étaient en première ligne, hein, et en particulier aussi les soignants, mais aussi une reconnaissance de manière plus large, c'est la reconnaissance du pays envers des catégories de salariés qui ont fait les efforts, alors que parfois même ils mettaient en péril leur propre santé. Donc il n'y a pas une exaspération, enfin il n'y a pas un climat social identique à celui qu'on a connu auparavant, mais il y a des fortes attentes et je pense que les pouvoirs publics seraient inspirés de pouvoir en tenir compte et considérer qu'on rentre dans une nouvelle phase, sans doute. Il faudra répondre à l'ensemble de ces attentes.
Oui, c'est très étonnant tout de même, vous qui observez le milieu social depuis bien des années, Jean-Dominique Simonpoli, tout de même, que de voir qu'une crise comme celle-ci peut renverser la donne ou pourrait renverser la donne en matière de climat social. Ce qui était impossible auparavant le devient. L'argent qu'on ne pouvait pas trouver, eh bien, on va finir peut-être par le trouver, justement, pour satisfaire certaines des exigences salariales de ces milieux qui étaient, comme vous le disiez tout à l'heure, en première ligne.
Oui, alors ça, on verra, l'avenir nous le dira.
J'ai dit peut-être.
Voilà, oui, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose qui apparaît. Il y a eu des engagements pris par les grandes enseignes de valoriser à travers des primes la situation de ceux qui sont engagés dès le départ dans la crise. Mais je crois que de manière plus générale, ça repose la question de l'utilité aussi sociale d'un certain nombre de catégories de salariés dont on ne parlait pas ou on parlait peu. Vous faisiez tout à l'heure référence aux Gilets jaunes. Peut-être qu'il y a une certaine partie d'entre eux, d'ailleurs, qui étaient sur les ronds-points, considérant que effectivement on n'était pas assez soucieux de leur propre situation. Mmh. Ils sont pas dans les cortèges syndicaux de manière générale. On les voit pas à la télévision, on parle pas d'eux. Et puis là, tout d'un coup, on se rend compte que leur situation et leur présence est absolument indispensable. Ben ça, effectivement, il va falloir au-delà de s'en rendre compte, il va falloir reconnaître ce travail-là qui a été le leur et reconnaître leurs compétences, leur savoir-faire. Et que la nation reconnaisse le rapport, et en particulier d'un point de vue financier.
Agnès Hartmann, ce contre-pied, pourrait-on dire, que l'on connaît aujourd'hui, en particulier des positions gouvernementales vis-à-vis des milieux de santé que vous représentez ici à ce micro, puisque vous êtes chef de service de diabétologie à la Pitié à Paris et que vous êtes membre du collectif Interhôpitaux. Ça faisait plus d'un an que vous protestiez, que vous manifestiez les uns et les autres pour pouvoir demander un meilleur salaire, des meilleures conditions de travail, etc. Et la semaine dernière, le président de la République, se rendant justement à l'hôpital, a dit que peut-être, grâce à ce Ségur de la santé qui démarrera la semaine prochaine, eh bien, certaines de ces revendications seraient prises en compte. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement de pied ?
Alors, d'abord, c'est vrai qu'on est un peu en perte de confiance parce qu'on a eu des annonces beaucoup pendant depuis un an qu'on se mobilise. Donc, l'annonce est intéressante, mais évidemment, on attend de voir les faits, de voir ce qui va sortir de cette concertation dite à Ségur. D'où vient ce revirement? Je pense probablement que la population, ayant tellement entendu parler de la mobilisation des soignants sur le virus, les applaudissements, et puis peut-être les réactions qui ont été assez violente à l'annonce de la médaille et du défilé pour le 14 juillet.
La semaine dernière, donc l'annonce d'une médaille qui serait remise aux soignants qui avaient été en première ligne, comme on a dit, pendant cette crise du coronavirus. Et ça vous a chiffonné, ça vous a choqué les unes ou les autres?
En tout cas, oui, je pense que le gouvernement s'est rendu compte que, loin de flatter les soignants, ça les avait exaspéré. Puis il y a eu à un moment cette discussion aussi la même semaine, cette proposition que des salariés reversent soit une journée de congé, soit un chèque vacances.
C'est Muriel Pénicaud qui l'annonçait. Donc,
voilà. Et ça a été très très mal pris. Alors est-ce que le gouvernement a pris la mesure de cette gaffe quelque part et s'est rendu compte que de l'exaspération qui règne dans le milieu des soignants?
Oui, parce que il a visiblement été surpris, ce gouvernement, puisque d'après ce que disait dans le JDD hier soir, évidemment de façon anonyme, un membre de cabinet ministériel, il disait en fait on ne s'attendait pas à ce que ça redémarre tout de suite, c'est-à-dire on pensait qu'à la rentrée de septembre, il y aurait peut-être effectivement des défilés, des choses comme ça, mais voir des défilés à Robert Debré à Paris la semaine dernière, à Toulouse ou à Nantes, eh bien ça, on ne s'y attendait pas, disait-il.
Alors c'est vrai que comme on n'arrête pas de dire qu'on est fatigué, peut-être que le gouvernement pensait qu'on n'aurait pas l'énergie
de se
mobiliser. Mais en fait, je pense qu'il y a eu ce sursaut des soignants parce qu'on avait une mission à remplir et comme c'est notre métier, on l'a tous fait. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y avait cette mission et tout le monde nous regardait en train de faire cette mission. Donc il y a eu ce sursaut d'énergie. Mais derrière, il y a une attente qui est extrêmement forte depuis des mois. Mmh. Et comme on a eu le sentiment d'être un peu baladé, parce qu'il y a eu pas mal d'annonces, on est assez dubitatif pour l'instant.
On y reviendra avec vous dans un instant. Olivier Klein, vous êtes maire de Clichy-sous-Bois, un endroit particulier puisque la Seine-Saint-Denis a été particulièrement touchée par ce coronavirus. C'est le département de France non seulement le plus pauvre, comme on l'a répété depuis maintenant plusieurs semaines pendant cette crise, mais également celui qui a été particulièrement touché par ce virus. J'imagine que cette colère sociale ou cette possibilité que la cocotte minute sociale, c'est une expression qu'on a récupérée dans Le Monde, un article du Monde la semaine dernière, justement, qu'il évoquait, eh bien, c'est quelque chose que vous voyez différemment de vos deux interlocuteurs qu'on a entendus, puisque vous, c'est aussi lié aux conditions particulières de logement, de travail et de pauvreté qu'il y a dans ce département.
Oui, bien sûr. Moi, malheureusement, j'ai presque plus tendance à avoir de la détresse que de la colère. La colère, elle est parfois et même souvent nécessaire. Ce qu'on a vu dans les premiers jours de ce confinement, c'est, au-delà de la crise sanitaire, une vraie crise sociale des familles qui ont commencé assez vite à se demander comment elles allaient pouvoir faire à manger à leurs enfants. Un confinement qui évidemment est difficile, hein. Clichy-sous-Bois, comme d'autres villes, c'est des très grandes copropriétés dégradées avec des appartements souvent bien trop petits au regard de la taille de la famille, et en même temps des familles qui se sont comportées souvent de manière héroïque, hein, parce que garder les enfants à la maison, c'est compliqué dans ces conditions-là, et souvent elles y ont réussi.
Et puis, parfois, en allant travailler, et d'autres fois effectivement en perdant tous les avantages que l'on pouvait avoir à faire des petits boulots à côté d'un boulot principal.
Voilà, des faibles ressources qui se sont taries, des repas à la cantine chez moi pour les familles les plus modestes, c'est 1 euro. On sait tous qu'on n'est pas capable de faire à manger à ses enfants avec 1 euro. Beaucoup de difficultés. Et c'est vrai que moi j'ai vu au centre d'action sociale de la ville arriver des familles qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent. On a vu, et les médias s'en sont fait l'écho, des queues très importantes aux distributions alimentaires. Et c'est vrai qu'il a fallu une mobilisation.
Il faut rappeler que les distributions alimentaires qui étaient assurées habituellement par les Restos du Cœur ou par d'autres grandes associations de ce type se sont brutalement arrêtées, que vous avez dû, en tant que municipalité, avec des associations de quartier, avec Assez le Feu ou d'autres associations, improviser des distributions alimentaires. Voilà.
Elles se sont arrêtées au début du confinement parce que souvent on connaît les militants associatifs qui sont parfois âgés et qui se sont eux-mêmes confinés. Mais très vite, on a vu qu'il fallait les redémarrer, celle du Resto du Cœur, celle du Secours Populaire. Et puis d'autres, comme Assez le Feu, effectivement, qui sont venus compléter ces distributions. Et puis il fallait aussi mettre en place avec l'action sociale des distributions de bons alimentaires, parce que c'était aussi important, et ça reste important que les familles soient évaluées. Il suffit pas de distribuer dans l'urgence, il faut aussi travailler sur la durée. C'est ce que j'essaie de dire en permanence. Il faut que cette crise sociale ne soit pas durable et qu'on prenne le taureau par les cornes pour accompagner durablement ces familles, et pas seulement dans cette période de crise, parce que on le sait, les habitants de nos quartiers, qui sont eux plutôt la deuxième ligne qui a été décrite, celles qui font tourner le pays, qui font que les rues sont propres, qu'on ait de l'eau dans nos robinets et qui sont présentes dans les supermarchés, ces familles-là, elles sont souvent celles qui pâtissent le premier quand il y a une crise, et malheureusement ceux qui ont, lors des reprises, les derniers à en profiter. Donc il faut vraiment que cette fois-ci, cette ligne-là, elle puisse profiter d'une reprise quand elle sera là, ce que je souhaite comme tout le monde de tout cœur.
Jean-Dominique Simonpoli, on a vu, c'était hier je crois, ou ce matin même, des employés de Auchan qui protestaient dans un Auchan pendant que les clients faisaient la queue justement à la caisse, auprès de leur direction, pour se faire entendre de leur direction, disant: vous nous aviez promis des primes exceptionnelles justement pour avoir tenu pendant toute la durée du confinement, et ces primes, elles seront modulables, elles ne seront pas à la hauteur de ce qu'ils escomptaient. Est-ce que vous pensez justement que cette vague de promesses qui a été faite pendant le confinement risque de provoquer de la déception, comme on l'entendait dans la bouche d'Agnès Hartmann, de la défiance aussi vis-à-vis de ceux qui ont fait ces promesses, et peut-être même une colère qui n'est pas encore là tout à fait?
Ah ben oui, je crois que ce que vous décrivez, le catalogue de ce que vous décrivez est présent aujourd'hui, hein, dans toutes ces dimensions. On peut avoir de la colère, on peut avoir de la déception, on peut avoir... Bon, après, bien évidemment, les tensions sociales, il faut qu'elles trouvent un débouché politique, mais ça, c'est pas l'objet de la discussion de ce soir. Ouais. Mais il est vrai que si les promesses qui ont été faites ne sont pas tenues, ça va créer naturellement de la déception. D'autant plus que cette crise, elle met en lumière aussi vos invités l'ont dit, mais la profondeur des inégalités qui existent dans notre pays. Et dans le monde du travail, il y a aussi des inégalités entre ceux qui sont partis bosser le matin en se demandant s'ils allaient pouvoir rentrer le soir en bonne santé, et ceux qui étaient chez eux en télétravail. On va vivre dans les entreprises des phénomènes aussi qui portent en germe comme ça éventuellement des tensions entre salariés, de ceux qui étaient en première ligne et ceux qui étaient en télétravail. Donc on voit que ça bouleverse complètement la réalité de ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent. Il y a des promesses qui ont été faites, il faut les tenir, parce que je vous dis, ces gens-là dont on parle là, Ils ont besoin d'être reconnus et c'est absolument nécessaire et c'est justifié. Et c'est vrai que ce qui va être important pour le climat social lui-même, c'est de voir si ces engagements qui ont été pris sont respectés. Pour le moment, c'est bon.
Agnès Hartmann, justement, c'est une question qu'on peut se poser à propos justement de cette immense machinerie qui est la santé en France. On sent qu'il y a eu, avec les collectifs nombreux qui se sont créés pendant plus d'un an autour de l'hôpital en particulier, il y a eu des mobilisations qui ont emporté tous les métiers de la santé. Ensuite, il y a eu effectivement à l'intérieur de l'hôpital une mobilisation pour pouvoir sauver le maximum de malades vis-à-vis du coronavirus. Est-ce que vous ne craignez pas justement que ce dégel d'après le confinement finisse par peut-être voir naître des tiraillements entre tel ou tel métier de la santé dans les mêmes hôpitaux, dans les mêmes structures hospitalières ?
Écoutez, pour l'instant, ça n'est pas ce qu'on perçoit. Il y a plutôt, parce que le collectif interurgences et interhôpitaux s'est toujours mobilisé sur les mêmes choses depuis un an.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs, à propos de la prime, on voit qu'il n'y a pas de tiraillement parce que la prime qui est proposée de 1 500 euros pour ceux qui ont été vraiment au front Covid. Et puis les autres 500 euros, là il y a un tiraillement, mais pas entre les personnes, c'est qu'il y a une espèce d'inégalité de traitement qui est mal vécue.
Expliquez-nous comment justement, dans un moment de crise comme celui que vous avez connu, que tous les hôpitaux ont connu, eh bien justement tous les métiers ont concouru. Je crois même que des métiers de l'administration, qui étaient théoriquement en back-office, comme on dit, sont montés là aussi au créneau parce qu'il y avait besoin de tout le monde.
Oui, tout le monde était au front parce que, par exemple, sur mon hôpital, il fallait créer ce qu'on appelle des régulateurs internes qui passaient des coups de fil toute la journée pour chercher des lits dans l'hôpital et que les gens n'attendent pas tout de suite que les gens soient vite mis sous oxygène. Et donc, il y a des gens de l'administration qui participaient à cette régulation. Les gens de l'administration ont participé aussi beaucoup au lien avec l'ARS pour chercher des lits.
L'Agence régionale de santé.
Voilà. Donc oui, tout le monde a le sentiment d'avoir été mobilisé, blanchisserie, ouvriers, brancardiers, tout le monde était là. Mais dans certaines régions, tout le monde va avoir la prime, dans d'autres, ça commence déjà à pas être très clair. Donc il y a quand même une mauvaise humeur par rapport à ça. Mais vous me demandiez si les professions risquaient de se monter les unes contre les autres.
Oui, enfin disons, si le déconfinement allait peut-être faire naître justement, après ce moment assez unique de cohésion à l'intérieur des grandes structures, peut-être des tensions, y compris d'ailleurs avec la médecine de ville, en dehors de l'hôpital, etc., etc. Puisque là, en l'occurrence, ce sont tous les métiers de santé qui, à un moment ou à un autre, ont été mobilisés pour pouvoir faire front.
Oui, tout à fait, mais en même temps, il y a eu des passerelles qui ont été mises en place, enfin, je parle pour ce que je connais ici à la PHP, avec la médecine de ville, d'ailleurs, une énorme souplesse, puisqu'on est sorti de la tarification à l'activité pendant cette période, donc on a pu travailler à l'extérieur de l'hôpital sans que ça pose problème, très vite, sur des plateformes de suivi à distance. On a pu travailler avec les généralistes du 13e, 14e pour ce qui est d'ici, sans que ça pose problème alors qu'on est la fonction publique hospitalière. Mais je voulais donner aussi l'exemple du fait qu'un certain nombre de médecins refusent la prime. C'est-à-dire, se mobilisent. Ils savent que le reste des métiers de l'hôpital ne peuvent pas refuser la prime parce que c'est énorme, 1 500 euros pour des gens. Ça représente parfois un 13e mois, en fait. Donc, évidemment, la plupart des personnels attendent cette prime. Mais il y a une partie des médecins qui n'ont pas besoin financièrement vraiment de cette prime et qui veulent par solidarité manifester qu'ils ne la prendront pas parce que ce qui est attendu des autres métiers de l'hôpital, c'est une vraie augmentation de salaire. Donc loin de monter les professions, en tout cas dans l'hôpital, les unes contre les autres, ce qu'on a vécu nous soude plutôt.
Voilà, nous sommes dans le temps du débat, un temps du débat qui se pose la question d'une France déconfinée qui pourrait devenir une cocotte minute sociale en compagnie de trois personnes. Agnès Hartmann qu'on vient d'entendre, chef de service de diabétologie de la Pitié-Salpêtrière et membre du collectif Interhôpitaux, Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis et Jean-Dominique Simon-Poli, le directeur général de l'association Dialogue qui est un lieu d'échange entre syndicalistes, chefs d'entreprise et spécialistes des questions sociales.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Et donc, avec vous trois, une des questions qu'on peut se poser, c'est ce qu'on a appris de cette période du confinement pour peut-être justement se dire qu'il y a là de l'expérimentation sociale qui pourrait aider à envisager différemment ce qui pourrait se passer après. Olivier Klein, on a l'impression qu'effectivement, sous la pression, eh bien, des acteurs nombreux se sont mobilisés, qu'il y a eu de la solidarité qui s'est déclenchée, et que donc les processus habituels, pourrait-on dire, de négociations, de discussions entre un maire, une municipalité et ses concitoyens, eh bien, a été bouleversé par ces nouvelles régulations qui se sont mises en place de façon un peu spontanée.
Oui, enfin, la solidarité, c'est quelque chose qui est très fréquent dans les quartiers populaires.
Quelque chose
qui m'a surpris. Au contraire, on a vu assez vite qu'on était en capacité de mobiliser les acteurs de terrain que sont les acteurs associatifs.
Est-ce qu'on a appris des choses? Est-ce que vous avez appris des choses en tant qu'élu qui pourraient servir justement de l'expérimentation?
Je crois, c'est pour revenir à la question de la santé. Je pense on le savait, hein, que on parlait de la mortalité en Seine-Saint-Denis et le risque accru. Je pense qu'on a vraiment à travailler sur tous les pans de la médecine et notamment la médecine de ville. On a vu que ne pas avoir de médecin traitant, avoir des déserts médicaux comme on peut les connaître, eh bien, ça a eu aussi ses effets. Moi, je plaide pour une réflexion sur avant l'hôpital, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place dans nos villes, peut-être le retour d'une forme de dispensaire, en tout cas de centres municipaux de santé qui pourraient vraiment être un point d'appui utile en général et dans des périodes de crise comme on a pu les connaître. C'est vrai que les messages n'étaient pas suffisamment clairs pour un certain nombre d'habitants de nos villes. Quand on disait n'allez pas voir le médecin, téléphonez, appelez votre médecin traitant, mais quand on n'a pas de médecin traitant, eh bien souvent
en Seine-Saint-Denis, 35% des habitants n'ont pas de médecin traitant, j'ai cru comprendre.
Voilà. Et quand on dit qu'en Seine-Saint-Denis c'est 35%, ça veut dire que peut-être à Clichy-sous-Bois c'est 50.
Ouais.
Et donc à un moment il faut que le message soit clair. Et je crois que de cette crise il faut aussi qu'on réfléchisse à quelle médecine de ville, quelle relation, quel parcours de santé. Comment on travaille sur tous les facteurs de risque, même si on le fait déjà à travers les ateliers santé-ville, à travers les relations ville-hôpital. Je crois vraiment qu'il y a une urgence à travailler sur l'état de santé des habitants de ces quartiers populaires, de leur capacité à accéder aux soins. Et c'est une parmi les nombreuses leçons qu'il faut retenir. Et puis, c'est le président de l'Agence nationale de renouvellement urbain qui parle. Je pense qu'il faut se donner les moyens d'aller plus vite. On voit, c'est pas la même chose d'être confiné dans un immeuble qui a été réhabilité, dans un immeuble où il y a un balcon ou quand il y en a pas. Enfin, je pense que l'action publique doit se donner les moyens d'être plus rapide. Et c'est, je crois, une autre des leçons qu'on doit faire de cette crise.
Et hier, effectivement, il y avait une tribune de soignants de Seine-Saint-Denis avec des professeurs qui disaient, eh bien, dans le JDD, qu'ils appelaient à l'équité sanitaire. Alors, on sait que équité, égalité, c'est pas tout à fait la même chose dans le langage administratif.
D'autres invitaient les parents à remettre leurs enfants à l'école des médecins de d'Avicenne et de Jean Verdier aussi, à juste titre, je crois.
Mais cette équité sanitaire, ça passerait par quoi, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, Olivier Klein, c'est-à-dire peut-être la création de nouveaux dispensaires, mais on en parle depuis tellement longtemps et ça ne
oui,
peut pas...
Oui, mais on le voit, il y a des villes qui, historiquement, souvent des villes communistes, qui ont des centres municipaux de santé et qui arrivent à les tenir. Moi, je serais bien incapable financièrement de pouvoir ouvrir un centre médical de santé. J'ai déjà du mal à payer mon médecin du travail pour la ville. Et quand elle s'en va, quand j'en change, on a beaucoup de mal à en trouver. Donc, je crois
45% de taux de pauvreté, c'est ça, oui. Clichy.
Ouais, c'est ça. Et puis, Clichy, c'est une ville doublement pauvre. Elle est pauvre de sa population et la municipalité est pauvre parce que historiquement, c'était une ville résidentielle, voire dortoir, voire ghetto. Et donc on a peu de ressources. Donc pour faire fonctionner le service public, il faut encore plus de solidarité et travailler à ce que doit être. Vous parliez tout à l'heure que j'étais vice-président de la métropole. Je pense que l'intercommunalité, notamment dans cette métropole parisienne, doit se saisir des champs de la solidarité, réduire les fractures territoriales. Et une des fractures territoriales, c'est effectivement celle de l'accès aux soins, sans parler de l'accès au numérique, et on l'a vu aussi dans l'école à la maison. Beaucoup des fractures que connaît ce pays ont été extrêmement visible pendant cette crise.
Justement, Agnès Hartmann, cet appel pour l'équité sanitaire, effectivement, dans une grande région comme la région Île-de-France, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez effectivement que, par exemple, on a pu apprendre cela, parce que les statistiques étaient là, malheureusement, qu'un département comme la Seine-Saint-Denis, non seulement le plus pauvre, mais aussi le plus touché par le Covid, nécessitait peut-être une autre distribution des soins, par exemple?
Ça a mis en lumière encore plus vive ça, mais c'est quelque chose qu'on perçoit depuis un moment. C'est vrai que moi, dans l'hôpital où je travaille, j'ai pas mal de patients qui viennent de Seine-Saint-Denis et qui signalent bien qu'ils n'ont plus de médecin traitant depuis un bon moment. Et c'est vrai qu'au moment du Covid, j'entends tout à fait ce qui a été dit, c'est que on disait aux gens « appelez votre médecin même si vous ne pouvez pas y aller, ne venez surtout pas aux urgences ». Et donc, en effet, cette population s'est trouvée démunie. Alors, sur le centre municipal de santé, c'est une option très intéressante parce que les jeunes médecins actuellement ne veulent plus s'installer seuls avec un paiement à l'acte. Ça ne les intéresse de moins en moins.
Médecins de ville, vous voulez dire ?
Oui, les médecins de ville. Les jeunes attendent, en fait, du salariat ou en tout cas une bonne partie de salariat. Et c'est sûr qu'il faudrait soutenir des initiatives de centres municipaux et les accompagner avec... du budget sur des régions comme ça avec des équipes multidisciplinaires et multiprofessionnelles et peut-être en partie paiement à l'acte mais surtout une partie budget pour financer la prise en charge des maladies chroniques et les jeunes médecins seraient intéressés par des expériences comme ça, travailler à plusieurs et puis il y a la revalorisation de l'acte de la médecine générale qui est quand même aussi, les médecins généralistes sont quand même aussi mal rémunérés par l'acte. Donc les jeunes sont en attente d'expériences comme ça. Mais bien sûr, dans des régions qui ne sont pas capables d'accompagner des centres municipaux de santé, il faudrait du soutien budgétaire.
France sous pression comme la cocotte minute, donc dont on a parlé depuis le début de cette émission du temps du débat Under Pressure de David Bowie. Jean-Dominique Simon-Poli, que faudrait-il justement pour que cette cocotte minute n'explose pas dans les semaines à venir? Alors on sait que l'été n'est pas favorable aux grands mouvements sociaux, mais d'ici l'été il y aura encore un bon mois et demi de discussions, de débats et justement peut-être aussi des débats vifs autour des avantages que l'on pourrait tirer de la situation actuelle, c'est-à-dire de la manière dont on pourrait enfin obtenir des augmentations de salaire d'un patronat qui n'a pas l'air tout à fait favorable à cela. Est-ce que cela, vous qui fréquentez les milieux syndicaux et les milieux de l'entreprise, vous pensez qu'il y aura possibilité de s'entendre pour, par exemple, augmenter les salaires dans certaines entreprises?
Écoutez, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qu'on peut tirer de la période que l'on vient de traverser, dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, c'est que ce qui était impossible hier est devenu possible aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a sorti des centaines de milliards d'euros comme ça de la manche pour répondre aux défis de cette crise.
Et la rencontre de Emmanuel Macron et d'Angela Merkel laisse entendre qu'on en sortira peut-être encore un peu plus
tout à
aujourd'hui.
Fait. Donc ça donne nécessairement des envies à tout le monde. Et tout le monde se dit, ce qui était impossible auparavant, ça devient possible. Alors finalement, qu'est-ce que ça met en lumière cette crise? D'abord, Olivier Klein l'évoquait, la profondeur des inégalités. Moi, je crois que ça révèle un peu que nous sommes dans un pays qui ne peut plus supporter tant d'écarts en termes d'inégalité.
C'est déjà ce que disaient les Gilets jaunes il y a déjà plus d'un an, hein, et qu'on n'écoutait pas tout à fait.
Oui, mais là, ça saute aux yeux. Enfin, je veux dire que le nombre de ceux qui viennent chercher des paniers repas parce qu'ils n'ont pas de quoi donner à manger à leurs gosses, c'est aujourd'hui quelque chose qui est devenu insupportable aux yeux de beaucoup de monde. Et en dehors de ces inégalités, on voit l'importance des services publics, l'importance de l'État. Alors, ça fait des années qu'on nous dit que l'État, il faut qu'il désengage de toute une série d'activités. On voit bien dans le domaine industriel. D'ailleurs, s'il n'y avait pas l'État pour soutenir des grandes entreprises publiques
et privées,
on ne sait pas ce qui se passerait. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que cette crise, elle met en lumière aussi la faiblesse des corps intermédiaires. Moi, je suis surpris de voir qu'on n'a pas eu, dans toute cette période-là, une déclaration commune des organisations syndicales pour au moins mettre en avant certaines préoccupations.
Y compris le 1er mai.
Voilà. Donc, et par contre, alors ce que l'on voit, c'est une forte expérimentation sociale. Il y a plein de choses qui se font localement. Hein. Déjà, l'État lui-même, quand on voit la rapidité avec laquelle l'État a mis en avant les fiches et les guides pour reprendre l'activité à la sortie du confinement, on se rend compte que voilà, on est quand même dans une période comme celle-là, ça libère des énergies qui vont être d'autant plus indispensables qu'on voit arriver un cataclysme super important, c'est la question de l'emploi. Mmh. C'est ce qui va se passer en termes d'emploi. Et donc, cette force de la dimension locale qu'on voit apparaître, qu'on a vu apparaître ces derniers temps dans les entreprises pour trouver des solutions aux problèmes qui étaient posés.
Y compris la question du télétravail, par exemple, effectivement, qui s'est réglée généralement au plus près des salariés.
Ben oui, c'est-à-dire on est passé en l'espace de quelques temps de 3% de gens en télétravail à près 25%. Donc, on voit bien qu'on est capable, on est dans un pays où on est capable de dépasser un peu les difficultés pour tenter de trouver des solutions ensemble. Alors, est-ce à dire qu'on va tenter de les trouver surtout? Je ne suis pas persuadé parce que les problèmes demeurent. On a bien vu que le patronat ne veut pas d'une négociation sur le télétravail. Il veut une déclaration commune, il veut essayer de trouver des situations, comment dirais-je, un diagnostic partagé, mais on est loin d'une négociation. Donc, tout n'est pas réglé pour autant. La faiblesse du syndicalisme, je pense que c'est un handicap profond. Sa division est aussi réelle et c'est aussi un handicap. Et on voit apparaître dans l'hôpital mais ailleurs aussi des salariés qui s'organisent un peu en dehors des syndicats. Alors peut-être tout ça va déboucher sur autre chose. Ce qui est vrai, c'est qu'on aura sans doute à la sortie de cette période-là une situation sociale qui sera sans doute très différente. Alors pour répondre à votre question précisément, est-ce qu'on va vers des grands mouvements sociaux? Personne n'en sait rien. Personne ne peut le dire dans le marc de café.
On peut le dire.
Simplement, on peut considérer que il y a une prise de conscience collective quand même de la nécessité de faire quelque chose. Et ce faire quelque chose, il va être d'autant plus important que, je veux dire, on va être confronté à des problèmes d'emploi extrêmement importants et sur lesquels il faudra trouver des innovations sociales. Hein, et sans doute, par le dialogue social, on y arrive.
Oui, Agnès Hartmann, justement, ces questions d'être au plus près, on a bien vu effectivement qu'il y a eu des grandes manœuvres au niveau de la santé, transportant des malades d'un bout à l'autre du territoire, etc., par des moyens qui étaient assez inédits et même totalement inédits. Mais il y a eu aussi beaucoup d'innovations dans les secteurs au plus près des malades, pourrait-on dire, qui se sont inventés pendant ce moment. On dit que le président de la République, venant la semaine dernière auprès des soignants, a dit eh bien voilà, on a fait des erreurs, etc. Ça, on l'a entendu, mais il a promis une gouvernance plus souple et plus déconcentrée, par exemple, des hôpitaux. Est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens, justement, pour éviter que n'explose la cote-cote minute sociale dans l'hôpital?
Alors ça peut faire partie, en effet, en fait, ce qui nous a libérés et ce qui nous a permis de nous organiser très vite et très efficacement, c'est quand même qu'on nous a donné les moyens de le faire. C'est-à-dire, nous, c'est notre métier d'organiser les soins, les filières de soins, les parcours de soins au sein de l'hôpital et avec l'extérieur. Donc à partir du moment où on nous dit de quoi vous avez besoin, on vous le donne, ben on se rend compte qu'en effet, on nous disait l'hôpital, vous savez pas vous organiser.
Oui, c'est ce qu'on entendait auparavant. C'est ce qu'on entendait auparavant.
On est tout à fait capable de nous organiser à partir du moment où on a un objectif de soins et des moyens pour l'atteindre. Après, l'histoire de la gouvernance, c'est tout à fait vrai. C'est aussi qu'on s'est retrouvé main dans la main avec les directions administratives pour le même objectif. Alors que les directions administratives, jusque-là, elles nous fixaient uniquement des objectifs budgétaires restreints. Et à partir du moment où elles aussi, elles peuvent travailler avec nous sur un objectif de soins, ben ça marche. Alors c'est pour ça qu'on va beaucoup se battre sur cette histoire de gouvernance pour que les soignants, dans les soignants, j'englobe tous les métiers de l'hôpital, et les usagers reprennent la main en fait sur sur la gouvernance de l'hôpital, partagée avec une administration qui a aussi son rôle à jouer, bien sûr, mais d'égal à égal avec des objectifs de soins. Enfin, c'est ce qu'on souhaiterait obtenir.
Ouais.
Maintenant, on nous annonce un Ségur, on attend de voir.
Oui, c'est ce que craignent d'ailleurs, qu'il n'arrive pas, justement, cette nouvelle organisation n'arrive pas. C'est ce que craignent ceux qui ont collé dans la nuit du 11 ou 12 mai, sur les murs des hôpitaux, à Paris ou ailleurs en Ile-de-France, des collages qui sont inspirés, des collages qui ont été faits contre le féminicide, où on disait « soignants, soldats sans armes, masqué, pas muselé, déconfinez votre colère, etc. etc. » C'était donc aussi tout un tas de gens qui ont dit il faut tout de suite marquer la possibilité de ne pas être d'accord avec le gouvernement une fois qu'on sera déconfiné, parce que sinon, si on ne marque pas la colère potentielle, eh bien, on n'aura pas la confiance justement vis-à-vis de ce gouvernement.
Oui, et puis c'est comme on a vécu un moment quand même incroyable, très difficile, très fatigant, mais avec des moyens et une organisation complètement différente, où on nous mettait pas en concurrence les uns avec les autres pour produire du séjour. Donc cette solidarité et ce sens retrouvé fait que, en effet, tout le monde appréhende que ça redevienne comme avant. En fait, on nous a fait goûter à quelque chose qu'on peut plus lâcher.
Bah oui, c'est ça. Oui,
parce et donc le slogan qui est le plus diffusé dans le pays, d'ailleurs, pas qu'en Ile-de-France, c'était non au retour à la normale.
Ouais.
Donc, bien sûr.
C'est un peu la même chose pour des gens qui, comme vous, Olivier Klein, en tant qu'élu, qui vous battez depuis longtemps pour faire reconnaître la nécessité des réhabilitations de villes. Je rappelle que vous êtes président de l'ANRU, de l'Agence nationale de rénovation urbaine, et qui, voyant ces milliards qui étaient sortis pour pouvoir sortir de la crise, du moins pour pouvoir vivre la crise et peut-être en sortir, se disent, tout compte fait, tout ce qui nous apparaissait impossible, le rapport Borloo sur la ville qui avait été remis dans un tiroir à peine sorti, tout cela, tout compte fait, on pourrait là aussi dire, eh bien, chiche, on peut y aller.
Oui, il y a déjà beaucoup de choses de faites, hein, notamment en termes de renouvellement urbain. Il y a déjà eu un doublement des capacités de l'ANRU, mais je crois qu'il faut aller plus loin, notamment sur les questions de santé et sur les questions d'emploi. Ça a déjà été dit, mais le nerf de la guerre, c'est comment les habitants des quartiers populaires retrouvent le chemin de l'emploi. Et un exemple de ce qui avait été défait, je crois on devrait refaire, c'est les emplois aidés. Aujourd'hui, on voit qu'il faut recréer du mouvement sur le marché de l'emploi. Les emplois aidés, évidemment, c'est pas la panacée, mais ça crée du mouvement, ça crée un champ du possible. Et la disparition des emplois aidés pour les associations, et on a vu à quel point elles ont été importantes pendant cette période, dans l'école, ces personnes qui faisaient de l'aide à la direction et qui étaient extrêmement importantes pour accueillir les parents dans l'école, pour mieux comprendre l'école. Toute cette question des emplois aidés, si on pouvait vraiment, et je l'ai dit au président de la République et au ministre de la Ville, vraiment saisir de cette période d'un nouveau champ du possible pour recréer des emplois aidés, mais gagnant-gagnant, qui créent un vrai emploi, je pense que ça serait important. La question de la formation, des formations simples, qualifiantes, proches des gens. On sait que les habitants des quartiers populaires sont parfois peu mobiles, donc amenons la formation comme on essaye de le faire, nous ou d'autres, Cuisine Mode d'Emploi avec Thierry Marx ou d'autres dispositifs qui fait que la formation vienne. Les grands chantiers, ils doivent redémarrer. Les Jeux Olympiques, le métro du Grand Paris, le renouvellement urbain, et il faut qu'on prépare les habitants de ces quartiers à y prendre toute leur part. Et je crois qu'il y a une urgence, et tirons toutes les leçons pour faire que chacun trouve sa place dans cette relance, parce qu'il doit y avoir une relance de l'économie, et que ça soit pas encore une fois les habitants de nos quartiers qui soient la part du feu et les oubliés.
Jean-Dominique Simonpoli, on parle beaucoup d'argent public là, parce que à la fois pour les politiques urbaines, mais aussi pour l'école ou pour les hôpitaux, comme on vient de le faire, eh bien c'est de l'argent public souvent, la plupart du temps. La grande partie des emplois, et vous parliez tout à l'heure de la catastrophe sociale qui pourrait arriver avec une catastrophe économique, ce sont des emplois du privé, et pour éviter une catastrophe qui serait une immense flambée sociale, ou alors une chance, cette flambée sociale pour certains. En tous les cas, il faudrait que les patrons des entreprises privées acceptassent d'être justement dans une politique d'augmentation des salaires, par exemple, ou une autre politique sociale que celle qu'ils pratiquaient auparavant.
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on voit bien toutes les grandes crises que l'on a traversées dans notre pays. Alors, si on prend une des plus anciennes, mais en même temps une des plus récentes, qui est 68, ça s'était soldé par une baisse de l'activité économique de manière assez importante, de l'ordre de plus de 35% environ. Mais en même temps, on était sorti de là avec des augmentations de salaires et on redémarrait, le pays redémarrait. Il va y avoir, je pense que vous avez, enfin, il y a un sujet sur lequel il va falloir qu'on se penche tous, c'est aussi la démocratie en entreprise, c'est-à-dire la capacité que vont avoir les acteurs, que ce soit les directions d'entreprise et les salariés, à travers leurs organisations syndicales ou d'autres, d'avoir cette capacité à pouvoir réfléchir ensemble à l'avenir. Et pas simplement laisser le soin aux directions et aux actionnaires de pouvoir le faire. C'est-à-dire, il faut repenser notre façon de procéder. Alors, cette crise, elle met en lumière un peu toutes nos difficultés. Et je pense qu'une de nos difficultés, ça tient à cette capacité à la fois de rebond, cette vitesse, cette vitalité qui est nécessaire pour rebondir, cette capacité qu'on va avoir ou pas à pouvoir réagir vite, une forte réactivité, mais en même temps aussi cette capacité qu'on va avoir à créer dans l'entreprise une démocratie sociale qui permette à ce que on puisse débattre sereinement de l'ensemble des problèmes auxquels on va être confronté. Et ils vont être nombreux. Il y a ce que vous évoquiez en termes de salaire, rééquilibrer la hiérarchie salariale. En termes d'emploi, qu'est-ce qu'on va faire? Tous ceux qui arrivent sur le marché du travail, les plus jeunes qui arrivent là sur le marché du travail, les diplômés ou autres.
Les stagiaires qui sortent de leur école, par exemple, ou de l'université.
Tout à fait. Tous ceux qui sont en apprentissage. Enfin, on voit bien qu'on va être confronté à une masse de difficultés, une masse de problèmes. Alors, soit on reprend les méthodes anciennes, et le risque, il est là quand même, hein, c'est qu'on refasse comme auparavant, hein, on rend des jeux de rôle des uns et des autres, et on repart comme on l'a fait auparavant, et ça va mal se passer. On essaye de rebondir intelligemment et trouver ensemble des solutions qui soient acceptables par tous et pour tous.
Et j'ai l'impression que vous voulez être un des acteurs justement de ce rebondissement intelligent, en l'occurrence Jean-Dominique Simonpoli, ainsi que nos deux autres invités, Agnès Hartmann et Olivier Klein. Merci d'avoir été avec nous tous les trois pour pouvoir débattre de ces questions justement sociales. Et d'ailleurs, nous reviendrons sur la liaison du social et de l'économique demain avec une émission qui s'intitule « Faut-il enterrer l'austérité dans le temps du débat entre 18h15 et 19h ?» Merci à tous les trois. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bail, Hugo Boursier, Manon Prisset, toute l'équipe du temps du débat, ainsi qu'à la technique aujourd'hui, Jacques Hubert et Olivier Bétard à la réalisation.